Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, on l'avoue, on avait vu Barbecue d'Éric Lavenne, mais on n'a pas replongé pour Plancha. Il n'en sera donc pas question dans cette émission qui va être partagée. Alors, autre reprise et actualité et deux films primés à Cannes. Et toi, Manu, tu as vu le prix du jury?
Oui, le nouveau film de Jerzy Skolimowski, I.O., ça veut dire I.A.N., donc en polonais. Et puis, un film Netflix, L'école du bien et du mal.
Quant à moi, j'ai vu le prix du scénario La conspiration du Caire, l'occasion d'écouter le réalisateur suédois d'origine égyptienne Tariq Saleh. Les ressorties, alors ce sont Les absents qui en parlent. Hein. Il y aura Le jour de la bête de La Iglesia et L'ours de Jean-Jacques Hano, et puis Millennium Mambo de Wu Xiaoxian. Mais on débute avec le prix du jury à Cannes, une histoire d'Anne, I.A.N., par Jerzy Skolimowski.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Bon, j'ai déjà dissipé le mystère donc du titre. Hein. I.O. signifie donc tout bêtement I.A.N. en polonais. Alors vous l'aurez compris, le nouveau film du vétéran Jerzy Skolimowski, hein, qui a aujourd'hui 84 ans, raconte l'histoire d'un âne sous la forme d'un road movie insolite, jamais très loin du compte, peuplé de rencontres bienveillantes ou au contraire violentes et anxiogènes. Alors au départ, ce que ne manqueront pas de remarquer les cinéphiles, l'intention est de rendre un hommage au film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, hein, conçu sur le même mode apparent, soit l'observation du monde à travers le regard innocent d'un animal avec un récit très similaire d'un strict point de vue diégétique. Alors Skolimowski ne cache pas son admiration envers le chef-d'œuvre de Robert Bresson. En conférence de presse, il a précisé qu'Au hasard Balthazar est le seul film qui a réussi à le faire pleurer de toute sa vie. Sans qu'il dise que ce soit son film préféré. Hein. En revanche, il se défend d'en avoir fait un remake. En effet, il s'agit davantage d'une variation autour d'un même thème qui s'empare de l'idée d'origine tout en prenant des directions différentes tant de point de vue de la forme que du fond. Alors Au hasard Balthazar narrait le chemin de croix d'un âne perçu comme une figure christique maltraitée par les humains. Alors I.A.N. au contraire s'affranchit de tout discours religieux, la moindre des choses de la part d'un auteur réputé pour son athéisme. En réalité, il se rapprocherait davantage d'un autre film du réalisateur dont il serait quelque part le remake animiste. Il s'agit de Essential Killing, un survival où un taliban tentait de s'échapper de ses poursuivants avec Vincent Gallo. Alors l'âne d'I.A.N. est un peu dans la même posture, de manière certes moins radicale, mais il ne cesse de fuir, d'aller de l'avant, de sauter des clôtures, de partager une expérience de la vie par son observation des êtres humains pouvant se comporter de façon ignoble ou parfois très empathique. I.A.N. ne juge pas, mais à travers des petites touches très justes démontre l'absurdité d'un monde moderne qui s'est éloigné de la nature, davantage dans une optique anarchisante que moralisatrice. Les épisodes, hein, conçus comme des séries de mini-courts-métrages, hein, tranchants et elliptiques, à la fois drôles et émouvants, portent un regard sur la société d'une très grande lucidité. L'innocence de l'âme est sûrement le meilleur moyen pour le cinéaste de vouloir parler de ses contemporains sans verser dans le cynisme. Il évite aussi tout manichéisme, ne s'embourbe pas dans un discours radical antispéciste. En vieux sage, Skolimowski préfère s'amuser, aborder des thèmes graves avec légèreté, dans une forme inventive et ludique proche du cinéma expérimental. Alors tourné en 1.33, I.A.N. permet à Skolimowski, de par son dispositif singulier, de livrer une fable picturale aux images magnifiques et au montage audacieux, alors brisant tout le temps la narration. Il n'y a pas de narration classique. On retiendra l'apparition assez fantasque de Isabelle Huppert et une étonnante partie de foot, très drôle au départ, mais qui prend une tournure particulièrement glauque avec une séquence à tabac éprouvante, écho évident au film de Bresson. Alors cette odyssée animalière, refusant tout anthropomorphisme, est un des plus beaux films de cette année, assez difficile à analyser, plus du l'ordre du pur ressenti, de l'émotion. Voilà un plaisir qui n'est pas évident à expliquer, mais qui est très fort sur un plan émotionnel et donc cinématographique.
En tout cas, les jurés du Festival de Cannes y ont été très sensibles, hein, puisque c'est le prix du jury au dernier Festival de Cannes. Donc c'est I.A.N. ou I.O.
I.O.
voilà, en polonais. Dernier film de Jerzy Skomilowski en salle depuis le 19 octobre. Il y a des inconditionnels de Jean-Jacques Hano et Guillaume, qui fait partie de l'équipe, en est. C'est pourquoi il nous parle de l'ours qui ressort en copie neuve.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama,
parfaitement au point et incapable de nous tromper.
Il y a un peu plus de 35 ans, déjà, hein, le français de tous les défis s'est offert rien de moins qu'un tour de force magistral avec son cinquième film, en cela qu'il a décidé de composer avec ce qui est le plus compliqué au monde à diriger, après Des Enfants et Gérard Depardieu, Des Animaux. Alors l'histoire de l'ours est peut-être connue de tous, mais un rapide rappel ne fera pas de mal pour que l'on comprenne à quel point l'expérience fut inédite et complexe, et sa réussite du coup d'autant plus brillante. L'ours met en scène l'ourson Yurk, hein, qui vit paisiblement auprès de sa maman en pleine nature, mais qui à la suite d'un éboulement de terrain devient orphelin et livré à lui-même du jour au lendemain. Esselé et apeuré, il va devoir apprendre à dompter tout seul les ressources de mère nature pour survivre, d'autant plus qu'il va vite devenir l'objet de convoitises de chasseurs bien décidé à ne pas rentrer les mains vides. Comme on l'a dit, l'ours, c'est tout d'abord la folie de donner le premier rôle à un animal qui est plus est absolument pas domestique. Non seulement il faudra du temps à Hano pour mettre en boîte ce qu'il avait en tête, mais son plan précis n'autorisait aucun écart pour maintenir l'intérêt de son récit. Il faut dire que l'ours est un récit initiatique, un conte animalier fait pour enchanter petits et grands, et que pour ce faire, les animaux et leurs menaces humaines évoluent non pas dans une nature prise au hasard, mais souvent complètement retouchée à l'écran. Alors, bien avant les facilités du numérique, Hano s'amusait à rajouter de faux rochers, de fausses herbes ou autres customisations de ses décors pour quitter le réel dit classique et s'aventurer dans l'image d'épinal amenée à imprégner toutes les rétines. Cette ressortie, trois décennies plus tard, montre bien que le pari fut tenu. Le succès de l'ours vient également du fait de son universalité. Son autre particularité, c'est donc, en plus d'une nature quasiment mythologique à la beauté surnaturelle, c'est que s'y joint le moins de dialogue possible, laissant le visuel se faire le vecteur d'une sensibilité sans frontières. Et le dernier point majeur du film, et le plus important qui soit, fut relevé et synthétisé par Umberto Eco lui-même, qui salua, au moment de la sortie, Jean-Jacques Hano, pour le hold-up qui venait d'opérer sur le public. Il lui tira son chapeau d'avoir su diriger un ours et faire croire, grâce à la pantomime et l'illusion du montage, que Yurk jouait vraiment des émotions associées aux humains, alors que tout ce qu'il faisait véritablement, c'était de foncer vers des pommes montrées hors champ. Donc voilà, la magnifique musique de Philippe Sard, elle achevait de diriger notre ressenti dans cette direction. Hano est un seigneur, celui d'un cinéma français exigeant, virtuose, intelligent, immersif et qui frappe à chaque fois par son caractère unique. L'ours est du panache sur très grand écran, de quoi nous replonger dans une époque pas si lointaine où les producteurs comme Claude Berry mouillaient la chemise pour produire une œuvre d'art imparable. Alors Hano reprendra par deux fois des animaux comme personnages principaux dans Le Bon Deux Frères en 2004 et dans l'excellent Le Dernier Loup en 2015. Mais sans vouloir minimiser la qualité de ces deux films précités, l'ours franchement restera son chef-d'œuvre absolu sur cette thématique. C'est un film à revisiter sur grand écran, si possible en famille, et qui ne laissera personne de marbre.
C'est le prix du scénario dernier Festival de Cannes, un thriller d'espionnage qui nous emmène en Égypte, La Conspiration du Caire.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
La Suède, cette patrie du cinéma, parlons-en, car si la Palme d'Or à Cannes a été attribuée à Ruben Östlund, le réalisateur de Sans Filtre, le prix du scénario a lui été attribué à Tariq Saleh, son compatriote, pour La Conspiration du Caire. Alors précisons-le, l'un des deux est blondinet, tel qu'on l'imagine, un Suédois, et l'autre est davantage typé égyptien, mais il est bien né à Stockholm. La trajectoire de Tariq Saleh est atypique, puisqu'il a d'abord été connu pour être un graffeur réputé de la capitale suédoise dans les années 80 avant de s'engager dans la réalisation de documentaires et ensuite de fictions. Et c'est à lui que l'on doit Le Caire confidentiel récompensé à Sundance. Avec La Conspiration du Caire, le réalisateur suédois nous emmène dans la prestigieuse université Al-Azhar au Caire pour y suivre l'ascension d'un jeune homme. Alors cette institution est présentée comme l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Ce long métrage qui prend l'allure d'un thriller d'espionnage nous plonge dans les luttes de pouvoir en Égypte et fait émerger ses contradictions. Alors disons-le tout de suite, les distributeurs français ont encore frappé, alors que le titre original est Boy from Heaven, donc Garçon du Paradis, Memento a fait le choix de vider la perception ironique du titre international pour une version davantage centrée sur l'intrigue. Alors c'est Adam, modeste fils de pêcheur, qui a la chance d'être admis à l'université Al-Azhar, prestigieuse donc institution d'enseignement de l'islam que nous suivons. Pour lui qui quitte son village, c'est la promesse d'une ascension sociale. Mais quand l'imam qui dirige l'université vient à mourir, les cartes sont rebattues. Une lutte de pouvoir va s'engager entre les différents prétendants à sa succession. Nœud de cette intrigue, les différents religieux entretiennent des relations bien différentes avec le pouvoir égyptien, bien décidé, lui, à choisir qui devra diriger l'université, car le pouvoir du Caire craint que des idéaux radicaux puissent l'emporter. Seul moyen de préserver son influence au sein de l'école, eh bien faire en sorte qu'un religieux proche du pouvoir accède à sa direction. Et c'est ainsi qu'Adam va être choisi pour devenir un informateur et s'infiltrer auprès d'agitateurs au sein même de l'université. Alors il s'ensuit divers retournements de situation, ponctués de trahisons, de morts et autres intimidations, de bons ingrédients d'un film d'espionnage à la tonalité politique. Alors il s'ensuit un découpage de séquences toutes captivantes. La mise en scène s'appuie autant sur le destin individuel du jeune héros que sur le mécanisme qu'il subit pour emmener le spectateur dans un récit qui se veut haletant. Le réalisateur, qui n'est pas le bienvenu en Égypte, hein, il risque la prison si l'envie lui prend d'y remettre les pieds, a tourné son film en Turquie. Alors pour autant, il ne s'agit pas d'une dénonciation de l'islam ou du pouvoir religieux, mais bien plus de la relation qu'entretient le pouvoir politique avec la religion dans les pays, alors on pourrait dire du Maghreb, et c'est peut-être aussi la description d'une Égypte contemporaine, celle du maréchal Abdel Fattah al-Sissi, qui veut toujours asseoir son pouvoir. Nous écoutons Tariq Saleh, donc qui était à Cannes hein, pour présenter La Conspiration du Caire, film qui a remporté le prix du scénario.
It's fiction.
Pour moi, c'est de la fiction. Mais comme pour toute fiction, la réalité semble être présente et nous heurter directement. J'ai une relation personnelle avec Al-Azhar, où mon père et mon grand-père est allé. C'est une institution qui m'intéresse depuis longtemps.
When I wrote the script, there was no conflict between the president and Sheikh Al-Azhar.
Et quand j'ai écrit le scénario, il n'y avait pas de conflit avec le grand imam. Mais le conflit a commencé alors que j'avais déjà écrit le script. Et c'est devenu extrêmement tendu entre Al-Azhar et CC. Donc, je ne voulais pas raconter une histoire sur l'autorité, mais je ne pouvais pas non plus ignorer la réalité. Et à un certain stade, il a fallu que je décrive une réalité parallèle. Le vrai Sheikh Al-Azhar, un homme très intelligent, très sophistiqué, c'est une voix de la raison dans une région où il y a beaucoup de voix totalement absurdes, des voix de mégalomanie. Le Cheikh Al-Azhar est une voix raisonnable. Il y a une chose donc que je veux dire. C'est l'enseignement dans une cour. Au fil des siècles, c'est comme cela que l'enseignement était transmis. C'était une université extrêmement progressiste. C'est lorsque les Anglais sont arrivés qu'ils ont modifié tout cela. Mais à Al-Azhar, les élèves, les enseignants se choisissaient les uns les autres. Il y avait une relation professeur-élève. Et ensuite, le système britannique est arrivé avec un professeur qui avait un bâton qui frappait les élèves lorsqu'il répondait mal à différentes questions. Donc aujourd'hui, Al-Azhar est quelque chose de complètement différent. Dans les années 60, les femmes ont fini par y être acceptées, puis la médecine y a été enseignée, l'informatique également. Donc, c'est un peu ce qu'il y a aussi de mieux dans l'enseignement islamique.
Adam, il a que l'a dit dans cette vie, Adam. Je te relâche à mine.
Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose très intéressante. En Suède, actuellement, nous avons... Enfin, en Suède, il y a une société merveilleuse, une société d'égalité homme-femme. Moi, je suis 50% égyptien, 50% suédois. Ma grand-mère en Suède prenait des bains à l'extérieur, entièrement nue devant moi. Et ensuite, j'allais en Égypte. Et de quoi parlait-on ? Savoir si Dieu condamnait la masturbation. Donc ça, c'était deux mondes complètement différents. Et ces deux mondes sont merveilleux. Mais je peux vous dire que les gens, où qu'ils soient, sont les mêmes à l'intérieur. Ils veulent tous la même chose, un monde meilleur pour leurs enfants, par exemple. Ça, c'est ce que je constate. En Égypte et en Suède. En Suède, donc, aujourd'hui, dans le monde du cinéma, il nous faut une égalité parfaite à 50-50 hommes-femmes. C'est une excellente chose. Ça pousse les femmes à faire des films. Nous devrions, nous, les hommes, prendre un peu de recul. Mais je suis aussi un artiste et je n'aime pas que les politiciens décident de ce que j'ai à faire. J'ai donc rédigé ce script et je me suis dit que je n'allais pas mettre une seule femme dans cette histoire. En fait, il y en a. Il y en a deux. Il y en a deux dans le scénario. Ce qui me plaît dans cette approche, c'est que c'est un film de prison. Que se passe-t-il lorsque des hommes se trouvent enfermés dans un même endroit ? Ça devient toxique. On le sait, lorsqu'il n'y a pas de femmes autour de nous, ça devient vraiment ennuyeux et horrible. Nous sommes des hommes, nous le savons, et les acteurs se plaignaient d'ailleurs. Pendant le tournage, ils disaient « Mais où sont les femmes ?» Moi, je leur disais, vous êtes là pour travailler, vous n'êtes pas là pour flirter. Mais il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient derrière la caméra.
C'était Tariq Saleh qui parlait de La Conspiration du Caire, film en salle depuis le 26 octobre. Le réalisateur taïwanais Hu Hsiao-hsien ne fait plus de films depuis 2015, mais la France lui a toujours ouvert ses salles. Millennium Mambo ressort et c'est Marine qui nous en parle.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Vicky est une jeune femme de 20 ans qui vit à Taipei et évolue dans le monde de la nuit, un peu perdue, sans savoir ce qu'elle veut faire de son futur, alors que le monde vient de basculer dans le 21e siècle, puisque nous sommes en l'an 2000. Vicky travaille dans une boîte de nuit. Elle vit avec un petit ami très jaloux qui dépend financièrement d'elle, tout en étant attirée par un autre jeune homme qui, lui, est proche de la mafia locale. Que des bons choix de vie, hein, donc, pour Vicky, interprétée par l'actrice taïwanaise Shu Qi, révélée en Europe par ce film, et que l'on découvre dans un plan séquence d'ouverture devenue une scène culte du cinéma contemporain sur la musique de Lim Gong. Après Goodbye South, Goodbye ou encore Les Fleurs de Shanghai, Hu Hsiao-hsien nous invite avec son Millennium Mambo à une contemplation de la vie moderne ou peut-être du vide moderne. Dans tout ce que la vie a de vain, de faussement connecté, de faussement libre, de profondément triste parfois, le réalisateur taïwanais a habituellement une technique de tournage pour ses films assez particulière puisqu'il demande aux acteurs d'improviser avant de ne faire qu'une seule prise, laissant une grande place donc dans ses films au plan séquence comme c'est le cas ici, avec ce supplément de réalité ajouté par l'improvisation des comédiens. De même, la musique est très importante dans ces films. On se souvient notamment de l'utilisation du morceau « Rain and Tears » des Aphrodite Child, qui revient trois fois dans le film « Three Times », parfois de façon d'ailleurs totalement anachronique, ajoutant une importante émotion à des scènes qui pourraient être anodines. Dans Millennium Mambo, c'est tout naturellement la musique électronique qui ponctue le film. Dans Millennium Mambo, Hu Hsiao-hsien opère un choix de narration très particulier puisque la voix off de la jeune héroïne narre ce que le réalisateur ne met pas en scène, alors qu'il montre en revanche des moments de la vie quotidienne qui pourraient sembler banals. Ce procédé en fait un film à la fois immersif et assez froid, puisqu'il refuse de montrer les événements qui pourraient être les plus émouvants pour les faire narrer par cette voix off, nous plongeant dans les vies noctambules de cette jeunesse sans pour autant nous donner accès à leurs émotions ou à leurs pensées. D'ailleurs, le film divise encore. Hein. Aujourd'hui, si tout le monde s'accorde sur la cinégénie gracieuse de la comédienne Chouki, certains voient dans le film un grand vide plein de lumières colorées, quand d'autres perçoivent un véritable chef-d'œuvre. Si la lenteur du film peut, selon votre humeur ou votre énergie, hein, vous hypnotiser ou vous endormir, eh bien, on ne peut nier que Millennium Mambo montre un aspect quand même assez universel de la jeunesse, sans la juger pour autant, que le film montre bien, eh bien ce sentiment d'errance face à l'avenir et la difficulté à faire des choix. Point central du film, rarement quitté par la caméra, Vicky est interprétée par l'incroyable Chouki, qui est pour beaucoup hein, au fait que le film s'imprime à ce point dans nos têtes. Chouki, une actrice taïwanaise à la carrière pour le moins originale, puisqu'elle a d'abord commencé dans des séries B érotiques taïwanaises avant de se spécialiser dans les films d'action. Elle ira jusqu'à refuser par erreur, on peut le dire, un rôle dans Tigre et Dragon, ratant l'occasion de devenir une actrice internationalement connue. Mais Chouki va finalement s'illustrer dans le cinéma d'auteur en devenant la muse de Hu Xiaozhen, avec qui elle fera Millennium Mambo, donc Three Times un petit peu plus tard, et L'Assassin, avant de faire quelques détours par Hollywood, notamment dans la production Besson, Le Transporteur. Chouki, aujourd'hui âgée de 46 ans, car le film Millennium Mambo a plus de 20 ans, hein, Chouki a continué un parcours assez unique, puisque malgré les nombreuses récompenses qu'elle a reçues, elle n'a jamais renoncé à tourner dans des directs tout vidéo comme elle faisait au début de sa carrière. Ces films un petit peu bas de gamme conçus pour ne jamais sortir en salle et donc pour sortir directement en DVD. À revoir donc en 2022, Millennium Mambo, et en complétant, pourquoi pas, avec HHH, le portrait de Hu Xiaozhen, réalisé par le cinéaste français Olivier Assayas.
Millennium Mambo, film de 2001, ressort dans les salles en 2022. Faisons un petit détour maintenant vers Netflix avec l'école du bien et du mal.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire ?
Conneries, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard. Cinérama.
Sophie et Agatha sont deux filles pas comme les autres qui partagent la même passion pour les mondes enchantés. Alors Sophie, couturière aux cheveux blonds, rêve de devenir princesse, tandis qu'Agatha est attirée par l'univers des sorcières. Une nuit, sous une lune rouge sang, une force irrésistible emporte les deux amies jusqu'à l'école du bien et du mal, l'endroit où tous les contes de fées commencent vraiment. Mais sur place, les rôles se sont inversés. Sophie la gentille atterrit à l'école du mal et Agatha débarque à l'école du bien. Pour rétablir l'ordre des choses, si tant bien que cet ordre existe bel et bien, seul un baiser d'amour véritable peut changer les règles et envoyer les jeunes filles vers les écoles et les destins qui leur correspondent vraiment. Mais c'est sans compter sur l'incarnation du mal qui plane sur cette école cachant de sombres secrets. Alors déjà quand même, rien que l'énoncé n'annonce pas grand-chose de bon. Mais bon, à la limite, pour un film pour enfants, ça pourrait passer. Bah, à l'écran, c'est encore pire. L'école du bien et du mal est un immense nanar, un ersatz complètement foireux d'Harry Potter, dénué de la moindre idée de mise en scène, alors déroulant un récit vraiment débile, adapté d'une série de romans pour adolescents qui ne donne aucune envie de s'y plonger. Alors, cette bouillie visuelle inflige à nos pupilles une photo alors colorée, immonde, et des effets spéciaux numériques bâclés. Alors, doté d'un budget quand même confortable, le film paraît en avoir coûté 100 fois moins et rappelle parfois des productions italiennes du début des années 90, réalisées notamment par Lamberto Bava comme La Caverne de la Rose, mais le charme en moins. Alors Paul Feig, hein, qui n'a jamais été un génie, mais il a pu faire parfois illusion, hein, le réalisateur, hein, Paul Feig, notamment avec l'amusant L'ombre d'Émilie. Alors, mais là, il n'a jamais fait pire et n'arrive même pas à sauver les meubles lorsqu'il injecte un humour décalé en totale contradiction avec le ton général du film dégoulinant de mièvrerie. Alors, L'école du bien et du mal hein, rappelle, on va dire, le pire des productions Disney Channel du début des années 2000, enrobées d'une esthétique à vomir, prouvant une fois pour toutes que nous avons bel et bien affaire à un produit télé. Alors, dans le pire sens du terme, il serait peut-être temps que Netflix confie des projets ambitieux à des cinéastes, mais surtout à des producteurs qui pourraient davantage encadrer des projets intéressants ou en stopper certains à la post-prod. Alors sinon, il y a Michel Yeo qui traverse l'écran en coup de vent, certainement pour toucher un chèque, tandis que Charlize Theron, en roue libre, semble être la seule à s'amuser un peu dans ce néo-conte sans fantaisie, à faire passer au hasard le monde de Narnia pour un pur chef-d'œuvre. Puis surtout, c'est un film qui ne choisit absolument pas son public. On ne sait pas si c'est destiné aux enfants, aux adolescents ou aux adultes, parce qu'il y a quand même un humour un peu prout-prout parfois. Et ça dure 2h30.
Ah oui, 2h30, ouais.
Et je ne savais pas, sinon je pense que je m'en serais passé pour la chronique, parce que mon intérêt n'est pas de dire du mal des films.
Oui, mais voilà, en tout cas, on essaie de regarder quand même ce qui se passe sur les plateformes. Et donc, parfois, on tombe sur des bons films sur Netflix, mais ces derniers temps, c'était rarement le cas. Terminons cette émission avec un film culte qui ressort, c'est Le jour de la bête de Alex de la Iglesia.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Mon père, je veux me confesser.
Dis-moi ce que tu as fait, mon fils.
Rien, mon père. Je n'ai pas péché. Mais je vais pécher. Je vais faire tout le mal possible.
Pourquoi ?
J'ai enfin trouvé. J'ai découvert le code, mon père.
Aujourd'hui ressort dans les salles l'une des œuvres les plus marquantes du cinéma fantastique européen des années 90. Alors la première partie de la décennie n'a pas été la plus prolixe ni la plus heureuse pour le fantastique, si on met de côté les rares réussites comme De la Morte et De la Morée de Michele Soavi. Avant l'aura de Marie Scream qui viendra redonner un coup de fouet au slasher, il y a bien quelques films qui sortent du lot. On pense par exemple à Branded de Peter Jackson, un autre trublion bricolant dans son coin, mais l'âge d'or des années 80 semble déjà loin. En 93, Pedro Almodovar a la bonne idée, via sa boîte LDC, d'accorder sa chance à un jeune fou du nom pas piqué des hannetons d'Alex de la Iglesia, et il lui permet de livrer au monde Action Mutante, donc Action Mutante chez nous, un film de SF punk où les moches et les autres rebuts de la société s'organisent pour commettre des attentats chez les riches et les beaux, le tout lointainement inspiré de la BD et de l'univers de Judge Dredd. En 95, De la Iglesia revient avec El Día de la Bestia, donc le jour de la bête chez nous, et met en scène rien de moins que l'apocalypse à venir. Madrid, attention à toi.
José Maria, j'ai une mission.
Vous partez en mission?
Non. J'ai une mission à accomplir. Une chose que je dois faire ici, en ville, moi-même. Tu es satanique, n'est-ce pas?
Oui, mon père. Et de Carabanchel.
Tu sais invoquer le diable.
Hein?
J'ai besoin d'invoquer le diable.
Pourquoi?
Tout ça, c'est en rapport avec l'Apocalypse.
Ah, le film?
Non, le livre de la Bible. Bon, peu importe. Cette nuit, l'Antéchrist va naître, mais j'ignore où. C'est pour ça que je dois invoquer le diable.
C'est puissant.
Le jour de la bête met en scène le prêtre Angel qui vient de faire une découverte capitale. Il a en effet décodé l'apocalypse de Saint Jean et est parvenu à déterminer le jour de la naissance de l'Antéchrist. Selon ce message, il naîtra le 25 décembre 95 à Madrid. Le problème, c'est que s'il a bien le lieu, il lui manque encore beaucoup de choses. Angel sait qu'il va devoir faire le mal pour attirer le mal, et pour ce faire, il va sympathiser avec un fan de heavy metal à la ramasse, mais qui ne jure que par le satanisme qu'il pense connaître via les pochettes d'albums, et tous deux, ils vont essayer d'empêcher la fin des temps d'arriver. Alors, ceux qui ne connaissent De la Iglesia que par sa plus récente création, la série 30 Monedas pour HBO España, se rendront compte qu'en remontant à la source, l'homme n'a pas vraiment changé. S'il s'est depuis diversifié avec brio en l'orientant du côté du cinéma de Billy Wilder avec Mes chers voisins, Le crime farpé ou Un jour de chance, du côté de Sergio Leone ou de Tonino Valeri pour son western comique 800 balles, ou carrément vers un drame passionnel sanglant avec deux clowns qui s'entretuent pour une belle trapéziste avec Balada triste et des trompettas, Le jour de la bête montre à quel point Alex de la Iglesia est un anarchiste punk qui aime autant rire des travers de son époque et des gens qui la composent que de nous délivrer un vrai beau film fantastique. Car bien malin sera celui qui commencera à rire à gorge déployée devant le jour de la bête. Car si le film s'épargne aucun gag efficace, c'est pour mieux, le temps de plusieurs séquences, de basculer vers l'inquiétant, voire l'effrayant sans qu'on ne le sente venir.
J'ai trahi le Christ comme Judas pour que notre salut soit possible.
Moi aussi je suis un pêcheur, j'adore la pêche.
Je dois vendre mon âme au diable, tu comprends? Mais j'ignore comment... J'ai volé ce livre, mais tout ça c'est très confus, il n'explique pas bien comment il faut faire.
Loin de la finesse de Rosemary's Baby, le film sait à sa façon retranscrire la violence d'une bande de gens qui vont être contaminés par le mal et prouver qu'il est plus compliqué que ça de pouvoir vraiment sauver le monde. Car ces mêmes gens que le prêtre Angel veut sauver peuvent se montrer horribles dès lors qu'on leur enlève leur sécurité et que quelque chose menace leur confort. C'est là tout l'esprit de la Iglesia qui arrive à dresser un portrait acide et féroce de son époque et de ses contemporains et faire un mélange des genres particulièrement savoureux que l'on a, ben, au final, que très rarement vu sur grand écran. Au fond, il n'y a guère qu'un film comme Le Loup-garou de Londres de John Landis qui ressemble au Jour de la Bête, en cela qu'il est très drôle quand il doit l'être, mais c'est basculé dans la terreur lorsqu'il s'agit de faire dresser les cheveux sur la tête. Les deux genres ne s'annulent à aucun moment, lui donnant cette tonalité tragicomique si singulière. Donc vous l'aurez compris, la ressortie du second film de l'enfant terrible, de la Movida et du cinéma espagnol moderne est probablement le meilleur film d'Halloween à aller voir en salle en cette Toussaint, et même si ce dernier se déroule lors des fêtes de fin d'année. Limpia Madrid.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, toi Manu, avec deux films.
Deux films de genre assez remarquables, X et Piggy.
Et puis nous parlerons aussi de À l'Ouest, rien de nouveau, et de Bros. À la semaine prochaine.